VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Eric Maniakidza, en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Il est 17h30, temps universel. Vous écoutez le monde aujourd'hui. Mercredi 18 octobre 2017, d'abord le sommaire. Au Togo, la situation tendue à Lomé est saccadée. Les manifestations de l'opposition sont interdites. Au Kenya, le président de la commission électorale émet de forts doutes sur sa capacité à organiser la présidentielle du 26 octobre. En Ouganda, interdiction des manifestations contre la suppression de la limite d'âge pour briguer la présidence. À découvrir dans cette édition, le musée des civilisations à Abidjan.
C'est pour dire à tous les publics que le musée est ouvert. La Renaissance aussi parce que pour la première fois, on présente des œuvres que les populations n'ont pas vues jusque-là. Il y a beaucoup d'objets.
Que pense la CAF de la prochaine attribution du Mondial 2026 ? Vous aurez la réponse du patron de la CAF dans cette édition. Retrouvez Nicolas Pidon pour votre page d'espoir et Blanche Sanou pour l'actualité économique, juste après le journal. Au Togo, des coups de feu et tirs de grenades lacrymogènes ont été entendus en milieu d'après-midi autour du domicile du chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre. Une situation pas très étrange au vu des incidents qui se sont produits à Lomé depuis la matinée. Le point avec notre correspondant sur place, Kai Lawson.
Les gaz lacrymogènes ont embaumé l'atmosphère de Lomé toute cette journée. Et pour cause, les militants et sympathisants de l'opposition ont bravé l'interdiction qui consiste à ne pas marcher un jour ouvrable imposée par le gouvernement togolais. Presque tous les quartiers de Lomé ont été secoués. Des face-à-face entre forces de l'ordre et manifestants ont été enregistrés dans le canton de Bay et dans les banlieues est et nord de la ville. Contre les gaz lacrymogènes, les manifestants ripostent avec des jets de pierre. Des personnes en tenue civile ont été aperçues dans certains quartiers de Lomé avec des fusils de gaz lacrymogène en main. Pour les leaders de l'opposition, il s'agit des miliciens à la solde du pouvoir. Des milices ont été préparées et qui sont à l'œuvre avec le soutien des forces de sécurité, a affirmé Brigitte Adjamagbo-Johnson de la coalition des 14 partis de l'opposition. À son côté, la ville est sous siège. Les militaires et forces de l'ordre la quadrillent et dispersent tout attroupement. En début d'après-midi, Sokolé sera silencieuse comme un cimetière. D'après des témoignages recueillis sur place, tous les habitants se sont terrés chez eux. Kai Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Nous y reviendrons dans la seconde édition de ce journal. Dans la seconde partie, donc, la Cour pénale internationale a intensifié ses enquêtes sur les responsabilités des violences post-électorales en Côte d'Ivoire. La procureure Fatou Bensouda a dit au quotidien public ivoirien Fraternité Matin qu'elle ne vise ni le statut ou l'appartenance politique. La France a remis du matériel militaire au Burkina Faso. C'est notamment des véhicules de transport, des mitrailleuses, des postes de transmission et du matériel de couchage. Cette aide est destinée au bataillon du G5 qui sera déployé dans le nord du pays. Prochainement, la même force recevra de nouvelles livraisons de matériel composé des détecteurs de mines, des casques et gilets pare-balles, du matériel de déminage et des moyens de transmission. Au Niger, la culture du poivron, interdite depuis 2 ans, est de nouveau autorisée dans la région d'Ifa, dans le sud-est. Les autorités soupçonnaient la filière de financer les activités de Boko Haram. 4 missionnaires britanniques ont été enlevés par des rebelles présumés près de la ville pétrolière de Wari, dans le sud du Nigeria. La semaine dernière, un prêtre italien, Maurizio Palu, avait été enlevé dans la même localité. Il a raconté sa libération à Radio Vatican et indiqué qu'il aimerait malgré tout rester dans le pays. Des échauffourées ont éclaté aujourd'hui au siège du parti au pouvoir en Guinée-Bissau entre partisans de 15 députés dissidents de cette formation et de la direction. Le président de la commission électorale du Kenya a reconnu aujourd'hui qu'il serait difficile de garantir une élection libre et équitable lors du scrutin prévu le 26 octobre. Wafula Chebukati a aussi dénoncé ce qu'il appelle les interférences de la classe politique. Jacques Aristide.
Je donne un carton jaune à tous les dirigeants politiques du pays. Ce sont les mots du patron de la commission électorale kényane, Wafula Chebukati, exhortant les politiciens de tous bords à cesser toute tentative d'interférer avec le processus. Il a également déclaré que la commission est minée par des dissensions internes qui ont sapé son autorité et l'ont empêché de garantir à son bon fonctionnement. Il a dit avoir poussé pour des changements majeurs, mais que toutes ses propositions ont été rejetées par une majorité de commissaires. Se refusant à démissionner après la validation par la Cour suprême des résultats de la présidentielle du 8 août, M. Chebukati a proposé au président Uhuru Kenyatta et au leader de l'opposition Raila Odinga, qui a exclu de participer au scrutin du 26 octobre, de se rencontrer en sa présence pour discuter. Par ailleurs, l'une des 8 membres de la commission électorale, Roselyne Akombe, a jeté l'éponge, elle a fui son pays et s'est réfugiée à New York après avoir subi des menaces. Dans un communiqué, elle estime que l'élection présidentielle au Kenya est une parodie de démocratie.
Jacques Aristide, la police ougandaise a interdit aujourd'hui les manifestations contre un projet de suppression de la limite d'âge pour être élu président. Ce projet permettrait à Yoweri Museveni, qui a 73 ans, de briguer un 6e mandat en 2021. Les précisions de John Lyndon.
Les autorités ougandaises interdisent régulièrement les manifestations de l'opposition et la plupart sont considérées comme illégales. Hier soir, la police a tiré du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc contre des centaines de partisans de l'opposition à Kampala. La dirigeante de l'opposition au Parlement, Winnie Kiza, a déclaré que cette décision était inconstitutionnelle et qu'elle allait la contester par tous les moyens. Fin septembre, le Parlement a adopté une motion autorisant un député du parti au pouvoir à présenter un projet de loi visant à amender la Constitution pour supprimer la limite d'âge de 75 ans pour être élu président. Le président Museveni, 73 ans et au pouvoir depuis 1986, n'en est pas à son premier coup d'essai. En 2005, la Constitution avait été modifiée pour supprimer la limitation à 2 mandats présidentiels, lui permettant ainsi de briguer ses 3e, 4e et 5e mandats. Si cet amendement passe, Yoweri Museveni pourrait ainsi briguer un 6e mandat en 2021.
Et des affrontements opposés aujourd'hui des soldats de l'armée congolaise à de présumés rebelles ougandais des forces démocratiques alliées ADF. Les autorités congolaises ont indiqué que ces combats se déroulent dans une région de l'est du pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Un juge fédéral de l'État américain du Maryland a suspendu l'application de la 3e version du décret du président Donald Trump en matière d'immigration. Un jugement similaire a été pris hier par un magistrat de Hawaï. Le point avec Solange Nyamulis.
La décision du juge Theodore Chuang devrait faire l'objet d'un appel rapide du gouvernement. Le décret du président Trump interdit l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays et devrait entrer en vigueur ce mercredi. Le juge Chuang a interdit de bloquer l'entrée d'étrangers qui ont une relation valable avec une personne ou une entité aux États-Unis. Dans un communiqué, peu après la décision hier du juge Derek Watson de Hawaï, la Maison-Blanche a estimé que cet ordre est porteur d'erreurs dangereuses et sape les efforts du président pour assurer la sécurité du peuple américain. Ses détracteurs lui reprochent de cibler sans raison et de façon discriminatoire des millions de musulmans. Le président américain a signé le 25 septembre ce décret interdisant l'entrée aux États-Unis des ressortissants du Tchad, de la Libye, de la Somalie, du Yémen, de la Syrie, de l'Iran, de la Corée du Nord et également des responsables vénézuéliens.
Des combattants syriens ont ratissé la ville dévastée de Raqqa et recommandé aux civils de ne pas y retourner dans l'immédiat, de peur des mines, capitale de facto d'un groupe État islamique. L'alliance de combattants arabes et kurdes appuyée par Washington était à la recherche de djihadistes cachés dans les tunnels ou immeubles de la cité septentrionale. Israël a approuvé 1323 logements supplémentaires pour colons en Cisjordanie. L'organisation israélienne anticolonisation, la paix maintenant, indique que cette mesure porte à 2646 le nombre d'unités d'habitations validées en trois jours dans ce territoire palestinien occupé. Le gouvernement espagnol a explicitement brandi la menace d'une suspension de l'autonomie de la Catalogne si ses dirigeants séparatistes ne renoncent pas à déclarer l'indépendance à 24 heures d'un ultime délai fixé en ce sens. Le président indépendantiste est pressé de toutes parts de temporiser, y compris par les milieux d'affaires qui constatent avec panique la fuite de centaines d'entreprises. Madrid pourrait toutefois renoncer à suspendre l'autonomie de la Catalogne si le président indépendantiste de la région acceptait de convoquer des élections régionales pour repartir à zéro et mettre fin au conflit qui l'oppose à Madrid. La chancelière allemande Angela Merkel entamait des négociations pour tenter de former son quatrième gouvernement. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité en Afrique, c'est l'économie que nous parle Blanche Sang.
Le président Alassane Ouattara effectue une visite officielle au Ghana. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont signé un accord de partenariat stratégique et trois mémorandums d'entente dans le domaine industriel, l'éradication de la pollution issue des activités illicites d'orpaillage dans le bassin des fleuves Bia et Tanoé entre les deux pays et sur la collaboration dans les domaines de la géologie et des ressources minières. Les deux parties se sont engagées dans le respect et la mise en œuvre effective de l'accord. En Guinée équatoriale, le gouvernement a annoncé la signature de plusieurs contrats pétroliers avec des entreprises étrangères depuis mi-octobre. Ces nouveaux contrats sont pour l'exploration et la production pétrolière. Ce pays d'Afrique centrale de près d'un million d'habitants subit encore les conséquences de la chute des prix du baril en 2014. Avec une production de près de 250 000 barils par jour en 2015, le pays est devenu officiellement membre de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. 60% du nouveau capital du Commonwealth Development Group sera investi en Afrique de l'Ouest dans les 5 prochaines années. Ce financement d'un montant de 2600 milliards de francs CFA sera utilisé dans les secteurs comme le bâtiment, travaux publics, l'agriculture et l'énergie, selon les explications de Marc Pays, représentant CDC Group au cours d'un point de presse à Dakar.
Et nous passons directement au sport avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec la Coupe du Monde des moins de 17 ans, le Mali et le Ghana en quart de finale.
Oui, ce mercredi, le choc africain entre le Ghana et le Niger a tourné à l'avantage des Ghanéens. Victoire 2-0, les doubles champions du monde de la catégorie, les Black Starlets, étaient favoris et la logique a donc été respectée. C'est sûr, il y aura une équipe africaine en demi-finale de cette Coupe du Monde des moins de 17 ans, puisque le Ghana va affronter le Mali en quart de finale pour un nouveau duel 100% africain. Dans l'autre rencontre du jour, le Brésil s'impose 3-0 face au Honduras et affrontera l'Allemagne en quart de finale.
On parle de la soirée de la Ligue des Champions hier en Europe. Nicolas, les résultats hier soir, le Real accroché.
Manchester City a remporté le choc du groupe F face à Naples, 2-1. Le Guinéen Amadou Diawara, buteur pour Naples. Le Real Madrid a concédé le match nul à Santiago Bernabéu face à Tottenham, 1-1, mais reste en tête de son groupe à égalité de points avec les Spurs. De son côté, Dortmund a été accroché à Nicosie, 1-1. Le Shakhtar Donetsk qui s'impose 2-1 face à une vaillante équipe du Feyenoord de Rotterdam. Et puis les Monégasques ont été renversés au Stade Louis II par Besiktas, une défaite 2-1. Liverpool a pris la tête du groupe E en battant largement Maribor 7-0. Tandis que le Spartak Moscou a été étonnant face à Séville, une victoire 5-1. Après une première période folle avec 5 buts, Leipzig a décroché le premier succès de son histoire en Ligue des Champions en battant Porto 3-2.
Et on termine avec la NBA, le championnat en titre qui chute d'entrée.
Le champion NBA en titre Golden State qui s'est fait surprendre à domicile par Houston 122-121 pour le coup d'envoi de la nouvelle saison. Victoire de Cleveland sur Boston 102-99, mais ce match a été marqué par la terrible blessure de Gordon Hayward qui disputait son premier match sous le maillot des Celtics.
C'était les sports de Nicolas Pinot.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Eric Manirakiza, deuxième partie de cette édition pour aborder les dossiers du jour. Au Togo, Sokodé était le théâtre d'une ambiance tendue entre forces de l'ordre et manifestants. C'est à la suite de l'interpellation de l'imam Alpha Hassan. Ces manifestations ont fait deux morts côté militaire et un civil tué. Pour savoir l'atmosphère actuelle à Sokodé et le sort de l'imam Alpha Hassan arrêté, Yakuba Ouedraogo a joint le journaliste de la radio Al Barka à Sokodé, Joachim Soko.
Il n'a pas été libéré. La nuit, quand il a été enlevé, la nuit de lundi, ils ont pris la direction de Kara. Selon les proches de la famille, puisqu'il a été enlevé devant sa famille, il y a son garçon qui a suivi un peu le cortège et ils ont pris la direction de Kara. Pour le moment, on n'a pas eu un écho de sa libération. D'ailleurs, même la coalition de l'opposition a demandé immédiatement sa libération.
Kara, c'est où?
Kara, c'est à quelques 70 à 80 km au nord de Sokodé, bien sûr, qui est le centre.
Comment est l'atmosphère à Sokodé aujourd'hui?
C'est la panique générale, la terreur. Chacun se cache à sa chambre, évitant une certaine confrontation entre les manifestants et les forces de l'ordre. Il y a les manifestants qui ont fait beaucoup de dégâts. Lundi à hier, mardi, les institutions d'État à l'extérieur de Togo Télécom, à l'extérieur de la Poste, des affaires sociales ont été saccagées, pillées, brûlées complètement. Les domaines privés également ont été saccagés, brûlés, à l'instar des kiosques qui se logeaient tout au long de la nationale numéro 1. Les baraques des boutiques, des couturiers, des coiffeurs, etc. Tout est saccagé, tout voulait. Au beau matin, j'ai fait un tour à travers la ville, tout est inerte. Si vous attendez peut-être les voitures, ça serait les voitures des militaires, des policiers, etc. Et par moment, comme c'est sûr, la nationale numéro 1, ils essaient quand même de protéger les voitures qui passent pour leur donner une issue favorable pour sortir vers Sokodé.
Et donc les activités sont aux arrêts à Sokodé aujourd'hui?
Toute activité est aux arrêts.
Qu'est-ce qu'on reproche à l'imam Alpha Hassan?
Selon les proches ou bien selon nos investigations, ça veut dire que c'est le conseiller spirituel de Kia Saddam, qui est le président de PNP, Parti National Panafricain. C'est lui qui, selon les dits dans sa mosquée, a prêché, selon ce qu'on l'accuse, qui s'est prêché induit les actes de violence par rapport aux marches, la marche de l'opposition qui devait se tenir aujourd'hui ou demain.
Est-ce que le président du PNP reconnaît que l'imam Alpha Hassan est son conseiller spirituel?
Bon, en fait, il est vrai de PNP. C'est pourquoi ils ont demandé sa libération immédiate quand ils ont appris que le gars a été arrêté.
Joachim Soko, journaliste à la radio Al Barka à Sokodé.
Comment les urgences médicales traitent-elles leurs patients en Afrique? C'est la question posée ce soir dans À votre avis. Au Sénégal, le décès d'Aïcha Diallo, une adolescente dans un hôpital, fait polémique. Ses proches affirment qu'elle a attendu trop longtemps avant d'être opérée et parlent de non-assistance à personne en danger. Les urgences exigent-elles d'être payées avant de prendre en charge les patients? Vos témoignages, Morgane Viriek, en votre compagnie, réagissez en direct ce soir à 18h, temps universel, en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons. À ce soir.
Direction Abidjan, le musée des civilisations fermé depuis 2 ans a fait peau neuve. L'un des musées d'art nègre les plus riches du monde, selon les mots de Léopold Sédar Senghor. Sa première exposition pour ses rénovations est baptisée Renaissance. Le musée avait été pillé en mars 2011 pendant la crise post-électorale. 120 œuvres ont disparu et valaient 4 milliards de francs CFA. Claire Morin-Gibou a joint la directrice du musée, Sylvie Memel-Kassi.
La Renaissance, parce que le musée fait aujourd'hui face à plusieurs challenges. D'abord, le musée était fermé pour des travaux. Le musée, d'abord en 2011, avait été pillé, fermé pendant 2 ans. C'est un défi au niveau de la fréquentation parce que le public avait fini par croire que le musée était à jamais fermé. Et donc la Renaissance, c'est pour dire à tous les publics que le musée est ouvert. La Renaissance aussi parce que pour la première fois, on présente des œuvres que les populations n'ont pas vu jusque-là. Il y a beaucoup d'objets que nous n'avions pas présentés jusque-là. Les œuvres qui sont en exposition font partie de la liste des chefs-d'œuvre du musée. La Renaissance aussi parce que le musée a été relooké, parce que nous voulons nous mettre dorénavant dans les normes internationales. Donc nous avons tout ce qu'il faut aujourd'hui pour que tous ceux qui viennent au musée se sentent fiers de se trouver dans un vrai espace culturel.
Alors c'est un musée qui est connu hein, dans toute la région, puisque je vais citer les mots de l'ex-président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Il avait dit que c'était l'un des musées les plus riches du monde, en art africain oui. bien sûr.
Effectivement, d'ailleurs, il a lancé un appel pour dire que ces autorités ivoiriennes ont une responsabilité devant l'histoire, parce que les Africains d'aujourd'hui, comme ceux de demain pourront se reconnaître dans les collections du musée, parce que ce musée parle de l'histoire de l'Afrique. Et donc, c'est très important que les autorités prennent conscience de cela et donc mettent tout en œuvre pour que cette institution réponde aux attentes des divers publics.
Dans quelques mois, vous avez une exposition qui s'intitule « La collection fantôme ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ?
C'est donc un cri de ralliement à la cause du patrimoine qui doit être préservé. Et donc la collection fantôme est là pour appeler aux uns et aux autres que le musée a connu un drame. Le phénomène du trafic illicite des biens culturels, c'est malheureusement une réalité. Nous ne devons pas oublier ce qui s'est passé, parce que si on ne prend pas garde, ça risque encore de se répéter. Donc la collection fantôme, ça va être une exposition d'œuvres contemporaines des artistes aux côtés des œuvres ethnographiques du musée des civilisations, pour que les objets qui ne sont plus là puissent continuer de parler, parce que nous estimons que même si ces objets ne sont pas là aujourd'hui, ces objets sont quand même gravés dans notre mémoire et dans nos cœurs.
Sylvie Memelkassi, directrice du musée des civilisations de Côte d'Ivoire.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Somalie, meurtrie comme jamais auparavant. L'attentat de samedi à Mogadiscio est le plus meurtrier de l'histoire du pays. Les Américains se disent prêts à renforcer leur soutien militaire aux Somaliens. Mais pourquoi la Somalie est-elle toujours le théâtre d'attaques terroristes ? La tragédie complique-t-elle davantage la tâche du président Mohamed Abdullahi Mohamed après ses 9 mois au pouvoir ? La communauté internationale fait-elle assez pour sauver ce pays, surtout face au danger Shebab. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
La RDC regorge de talentueux musiciens et la rumba congolaise est connue à travers des légendes comme Koffi Olomide ou encore Feu Papa Wemba. Mais il y a aussi ces jeunes loups aux dents longues comme Karmapa, Jean-Jacques Kibinda Pembele de son vrai nom. Abdelrahman Dia l'a rencontré lors de son récent séjour à Kinshasa.
Si on appelle le prince de Rumba, je pense que c'est passé. Rochero, quand il était vivant, on lui avait posé une question une fois. On lui a demandé, mais Rochero, là, vous êtes vraiment à la fin de votre carrière. Et là, il y a une nouvelle génération qui arrive. Qui vraiment vous trouvez qui peut vous remplacer? Et Rochero, dans sa bouche, il avait cité Koffi, il avait cité Karmapa. Mais il a rajouté, je vois que Karmapa a mis la barre très haute. Depuis ces jours-là, on a commencé à m'appeler le prince de la rumba. J'écrivais des chansons et j'écris des chansons pour beaucoup de grands musiciens. Une fois, j'ai rencontré Papa Wemba, il m'a dit, en tout cas, Karmapa, t'es fort à mélodie. Et c'est là que j'ai pris conscience et j'ai commencé ma carrière. La carrière professionnelle en 2002, j'ai sorti mon album, mon premier album qui s'appelait Je m'appelle toi. L'album, une fois sorti, c'était une grande première au Congo, chez nous. Un artiste, un nouveau qui arrive, qui sort un album à la fin de l'année. Meilleur album, meilleur auteur-compositeur que j'étais, meilleure chanson, et puis j'étais la révélation de l'année. J'ai écrit une chanson qui était sortie même à la fin de l'année, comme d'habitude, chez nous. C'était sorti meilleure chanson de l'année. Et c'était la chanson « Messieurs les députés ». Là, je m'étais inspiré en fait, de ce qui se passe chez nous sur l'hémisphère politique. Je voulais tout simplement réveiller nos députés parce qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils sont là. pour le peuple. À partir de Monsieur les millionnaires, je suis devenu un chanteur engagé, je dirais. Oui. La musique congolaise, maintenant, c'est vrai que la rumba a un peu reculé, faute du management, faute de beaucoup de choses, quoi. Mais la musique congolaise reste, pour moi, la rumba reste la mère de toutes ces musiques qu'on écoute en ces moments en Afrique. La rumba, c'est un patrimoine national.
Ouais, la rumba avec le chanteur Karmapa à Kinshasa.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Encore du football. Avant de vous quitter, le président de la CAF estime légitime que l'Afrique organise le mondial de 2026. Dans une interview exclusive à VOA Afrique, à partir de Rabat, où il est en déplacement, le président de la Confédération africaine de football revient sur l'attribution du CHAN 2018 au Maroc, l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun et la prochaine attribution du mondial 2026. Nicolas Pinot a joint le président Ahmad de la CAF qui est au Maroc.
Vous savez, moi je suis président des 54 pays africains. Au moins, il y a un pays africain qui a la possibilité et le moyen d'accueillir une Coupe du Monde. Ça fait déjà une fierté à nous tous, nous Africains. L'Afrique, quoi qu'on dise, c'est parmi les quatre grands continents et parmi les deux très grande en termes de nombre, on vit dans la démocratie. Et on n'a organisé qu'une seule fois la Coupe de l'Est. Donc c'est tout à fait légitime si aujourd'hui l'Afrique réclame une deuxième organisation.
Le prochain grand rendez-vous, c'est la CAN 2019. Vous avez récemment apporté votre soutien au Cameroun qui organise cette compétition. C'est la fin de la polémique.
Moi, je n'ai jamais dit qu'on retire du Cameroun de l'organisation. À aucun moment. Je suis un président qui vient de succéder notre administration. Il y a certaines règles qu'il faut toujours respecter. Moi, par contre, on est intransigeant. La CAF actuelle, les dirigeants de la CAF actuelle, dont moi-même, est intransigeant sur le respect de cahier de charge. Et on a revu notre cahier de charge. Si le Cameroun est honoré pour ces compétitions, il répond favorablement à toutes les exigences, aucun souci, j'avais toujours dit. Moi, par contre, j'avais dit, et je le répète, au moment où j'avais dit que le Cameroun n'était pas pris. La preuve, c'est que le lendemain de ma déclaration, les autorités politiques ont signé le contrat avec certaines entreprises pour les infrastructures. Et quelques semaines après, le gouvernement a mis en place le comité d'organisation. Alors, en tant que premier responsable, le propriétaire de la Coupe d'Afrique des Nations, j'ai pas droit d'être inquiet.
Donc vous estimez que vos propos ont été utiles au Cameroun?
En tout cas, il y a un progrès, il y a une évolution de la préparation depuis mon intervention. Vous savez que aujourd'hui même, si vous demandez où est surtout la Côte d'Ivoire, le comité d'organisation a été mis en place depuis un certain moment. Voilà un pays qui est déjà en avance. Qu'est-ce que je peux dire? C'est de les encourager. Donc, quoi qu'il en soit, c'était nécessaire en partie. Et je sais que beaucoup de Camerounais qui me connaissent ou qui ont la facilité de me contacter m'ont remercié sur ce que j'ai fait
à vous. À l'époque, votre prédécesseur Issa Ayetou avait critiqué vos propos. Cela vous a touché?
Non, je laisse à vous de voir pour quelqu'un qui a dit qu'il va m'aider. Et voilà sa première contribution.
Ahmad, le président de la Confédération africaine de football, un entretien que vous pouvez retrouver sur voafrique.com. Et c'est la fin de cette édition. Sims Lumami a assuré la mise en onde. Poutko à la console. Présentation Eric Manirakiza. Ainsi va le monde aujourd'hui. Profitez de votre vie et vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. Je vous retrouve à 19h30 pour la troisième édition du Monde aujourd'hui. À tout à l'heure.